RadioRugbyAmateur.fr.
Toute l'info du rugby.
Interview, talk show, podcast.
Rugby Amateur, la voix des clubs.
Il est né un 4 janvier 1989 à Duras, dans le Lot-et-Garonne. Il est marié, papa de 2 enfants. C'est un arbitre professionnel qui a un CV XXL et que nous avons le plaisir d'accueillir parce qu'il va être aussi co-entraîneur en Régional 2. Nous avons le plaisir d'accueillir donc Ludovic Kerr. Ludovic, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour Jérôme.
Ludovic, je le disais, donc on va commencer par la partie rugby amateur qui nous intéresse en premier lieu. Donc on a appris co-entraîneur en Régional 2. La question, pourquoi déjà, tout simplement?
Pourquoi? Parce que en parallèle de ma carrière d'arbitre, je désirais passer mon DE, mon DEGEPS, pour peut-être passer entraîneur plus tard après, en après-carrière, pardon, en reconversion. Et voilà, donc là, je vais intégrer la promo du DEGEPS à partir de fin juin à Bordeaux. Et voilà, et en parallèle de ce DEGEPS, il y a une partie théorique qui se passe au Crêpes à Talence. Il me fallait un club support, entre guillemets, pour entraîner et mettre toute théorie en pratique. Et voilà, étant très proche du manager de Miremont, qui est Bruno Esclavard, voilà, on est amis de longue date. Donc ça s'est fait naturellement. Dès qu'il a su que je passais mon DE, il s'est rapproché de moi et on s'est entendu sur plusieurs points. Et c'est pour ça que je me suis rapproché de Miremont. Et mon souhait, c'était aussi de mettre tout ça en pratique, mais de continuer en parallèle ma carrière d'arbitre de haut niveau, d'arbitre professionnel. Et donc, il m'était difficile d'entraîner, il était même impossible à l'heure actuelle d'entraîner à haut niveau en parallèle de ma carrière d'arbitre. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi d'entraîner en régional et de pouvoir continuer en parallèle ma carrière d'arbitre.
Et alors, en quoi ça consistera, donc, cette fonction d'entraîneur, justement?
En fait, je vais juste compléter le staff qui est déjà en place, qui était cette année, donc composé de Bruno Esclavard, qui était manager, de Paul Minetto pour les avants et de Mathieu Marche pour les arrières. Donc, je vais venir en complément de ces trois. On va travailler vraiment à quatre. Je vais forcément m'occuper de tout ce qui est la partie discipline. Il y avait un ratio de pénalité assez élevé à Miremont dans ce secteur-là. Donc, on va travailler sur comment réduire ce ratio au travers de petits trucs qu'on va inculquer aux joueurs. Donc, ma mission principale va être autour de tout ce qui est l'aspect discipline, beaucoup autour de la défense, donc de l'attitude au contact, des attitudes défensives. Je ne vais pas rentrer dans les statistiques, mais en moyenne sur un match, si on prend 11 pénalités en moyenne, c'est 8 quand on défend et 3 quand on attaque. Donc le ratio est beaucoup plus important quand on défend. Donc on va travailler sur toutes ces attitudes défensives, inculquer des choses aux joueurs pour réduire ce ratio. Donc beaucoup partie défense et discipline. Et voilà, je serai présent un maximum. Je mettrai des ateliers en place tous les mercredis soirs sur ce thème-là. Et le vendredi et le dimanche, pour les matchs, ça dépendra de mon emploi du temps arbitral.
Ça va être facile de tout concilier?
Oui, ça va être facile. L'avantage en étant arbitre pro, c'est que j'ai une relative souplesse dans mon emploi du temps la semaine. Donc j'ai beaucoup de travail technique, de visio, déjà personnel pour mes matchs, ma prépa. Beaucoup de visio avec les arbitres de top 14 et notre chef Mathieu Rénal et la cellule pour tout ce qui est débrief. Mais je peux planifier assez facilement mes semaines et... Donc entre cette partie technique, la partie physique aussi, moi, ma préparation physique et tout ça, je devrais arriver à tout concilier.
Alors, est-ce que l'objectif, enfin quel est l'objectif justement à terme de cette préparation d'entraîneur?
Pardon, l'objectif à...
Oui, l'objectif final, c'est d'être entraîneur d'une équipe pro, c'est quoi l'objectif?
Ouais, c'est je pense oui à plus tard. Donc c'est vrai qu'en ayant un emploi du temps d'arbitre de haut niveau, entre guillemets, qui avec cette relative souplesse la semaine, ça me permet de pouvoir passer le DE relativement facilement, entre guillemets, plutôt que quelqu'un qui travaille à 100% à côté. Mmh. Le rythme du DE, c'est 4 jours par mois en centre d'études, donc 4 jours par mois à Bordeaux sur du lundi au jeudi, en gros. Donc c'est vrai qu'en ayant cette souplesse d'emploi du temps, ça me permet de le passer maintenant plus facilement. Et oui, donc de le passer maintenant et de voir plus loin. Je sais que ça fait déjà 10 ans que j'arbitre en top 14, donc j'ai 37 ans. Je sais qu'il m'en reste moins que 10, il me reste peut-être 6-7 ans d'arbitre de haut niveau. Donc Voilà, je pense que c'était le bon timing de passer à l'après, même si, bien sûr, mon focus numéro un, voilà, c'est de continuer à arbitrer des matchs de haut niveau et d'aller le plus loin possible dans ma carrière d'arbitre. Mais je trouve que c'était le bon moment pour corréler les deux. Et pour intervenir beaucoup dans les clubs de top 14 et de Pro D2, on dit toujours aux joueurs qui sont de meilleurs joueurs quand ils maîtrisent ben, tout l'aspect discipline et le côté arbitral. Mais je pense que l'inverse est vrai. Donc, voilà, me rapprocher aussi de tout ce qui est jeu, connaissance du jeu, à notre niveau, forcément, elle est hyper importante cette connaissance. Et voilà, donc de concilier les deux, pour moi, ça peut être que bénéfique. Hein.
D'accord, puis il y a eu des exemples qui nous montrent qu'il y a des arbitres qui peuvent être dans un staff, voire même être le manager d'un club de Pro D2 notamment.
Oui, exactement. Oui, bon, Alex, c'est un cas à part. Il avait ça dans les gènes depuis tout petit, donc il entraînait depuis nombreuses années. Donc bien sûr, Alex, c'est un exemple. Je me prétends pas du tout suivre ses traces ou devenir un jour manager, mais ouais, tout, enfin, même la transmission, j'ai pu le faire pas mal de temps, enfin quelques temps au SUA. Voilà, toutes les semaines, on va dans les clubs. J'étais il y a 15 jours à La Rochelle, à Mont-de-Marsan. Je vais à Perpignan la semaine prochaine, donc on bouge beaucoup dans les clubs de la semaine et cet aspect de transmission, de voilà, inculquer tout ce qui est la discipline, notre façon de réfléchir aussi, nous, arbitres sur le terrain, nos process, ça permet aux joueurs d'être meilleurs, de savoir comment nous on pense et comment on prend nos décisions. Et voilà, j'aime transmettre tout ça. Hein.
Alors, on l'a survolé, mais on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Mais c'est vrai que l'histoire, ton histoire avec le rugby, elle commence par des bons souvenirs, mais aussi par cette blessure dont tu as fait cas quand tu avais 15 ans, je crois. C'était en cadet. Tu es victime d'un gros plaquage et d'une grosse blessure qui aurait pu être plus grave que ce qu'elle n'a été. Tu peux nous en parler, s'il te plaît?
Oui, exactement, c'est ça. C'était en début de saison, en septembre, j'étais en section sportive rugby aussi au collège de Duras. Donc, c'était une classe spéciale où on faisait du rugby tous les mercredis, tous les vendredis, en plus de nos entraînements en club et de nos matchs en club. Et sur un entraînement du vendredi après-midi, ouais, donc moi sur un plaquage, j'ai pas eu le temps de placer la tête du bon côté. Donc je me suis fait mal sur ce plaquage, une très grave entorse cervicale au niveau des vertèbres C2, C3, C4. Donc voilà, je suis resté, je sais plus, 2 3 mois à l'hôpital à Bordeaux. J'ai pas été opéré immédiatement parce que j'avais 15 ans et ouais, j'étais suivi par 3 chirurgiens, donc 2 de Bordeaux et 1 de Paris, qui pensaient que, en étant jeune à 15 ans et toujours en phase de croissance, ça pouvait rentrer dans l'ordre tout seul. Sauf que je suis resté 2 3 mois à l'hôpital et en décembre janvier, j'avais des douleurs atroces qui descendaient dans le bras, enfin un peu partout et voilà, des calcifications qui s'étaient formées et ils ont admis que ça reviendrait pas, donc qu'il fallait passer sur la table d'opération. Donc j'ai eu l'accident en septembre et j'ai été opéré que le 13 janvier. Et donc le 13 janvier, j'ai été opéré, ils m'ont fait une arthrodèse cervicale C2, C3, C4, donc 3 vertèbres cervicales qui ont été bloquées. Et suite à ça, le chirurgien m'a dit interdit de remettre les pieds sur le terrain en tant que joueur. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je sais qu'à l'hôpital, on me touchait les bras et les jambes toutes les heures. Parce que en termes de millimètres, comment ça avait bougé, ils ne comprenaient pas que je sente encore mes jambes et mes bras. Donc je suis passé pas loin du fauteuil, j'ai eu énormément de chance. Et voilà, on m'a dit, tu peux revenir sur le terrain, mais pas en tant que joueur, c'est trop dangereux avec l'opération que tu viens de subir. Donc j'avais 16 ans, le temps de la convalescence, et je me suis dit, comment je peux rester dans le milieu du rugby, sachant que je ne peux plus jouer. Donc comme je dis toujours, entraîner à cet âge-là, c'est compliqué. Donc voilà, je me suis tourné vers un peu la seule voie qui restait, l'arbitrage. Et voilà, je le dis à l'heure actuelle, sans nostalgie, c'est un mal pour un bien, parce que je pense que de moi-même, à l'époque, je ne me serais pas forcément tourné vers l'arbitrage. Et voilà, là, je me suis tourné suite à cette blessure. Et voilà, ça a donné la suite que l'on sait. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'était un mal pour un bien. Hein.
Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir cette progression, parce que c'était pas forcément une vocation, tu le disais, mais la progression est assez rapide. Bon, on connaît le parcours pro, mais on connaît moins bien cette période-là, donc de 17 ans jusqu'à tes premiers matchs pro. Comment ça se passe ces premiers mois, justement, d'apprentissage d'arbitre?
Comme je disais, je suis allé un peu par défaut. Mon premier match, c'était en décembre 2007, donc au passage à Gênes, sur un match, je m'en souviens, de cadet, le passage de Libourne. Et ouais, sur un de mes premiers matchs, alors c'est vrai que je baignais dans le rugby depuis tout petit, mais J'ai eu beaucoup de retours positifs, que ce soit des staffs, des joueurs, des personnes du monde de l'arbitrage qui étaient là ce jour-là. Et voilà, j'y ai pris goût très très vite. Et après, c'est un peu comme une drogue, comme un joueur quand on a envie de retourner très vite sur le terrain. Après, j'attendais les désignations de chaque week-end impatiemment. Et voilà, et je suis un compétiteur dans l'âme, un peu comme un joueur quand on est arbitre. Alors, c'est un peu plus individuel parce qu'on est seul, mais on joue notre championnat, nous, entre guillemets, chaque saison. Et moi, mon objectif chaque saison, c'était de réaliser les meilleures performances possibles pour passer à l'étage du dessus. J'étais vraiment motivé par ça. Et donc, c'est vrai que oui, j'ai franchi assez vite les étapes. Enfin, je commençais à arbitrer à l'époque en quatrième série, ce qui est la régionale 3 de maintenant. Et voilà, je suis monté de division en division, donc en passant tous les examens aussi à l'écrit. Je suis arrivé en fédéral 3 relativement jeune, à 20 ans. Donc, ça a été un gros palier et plutôt difficile même, parce que en étant de la région, en étant originaire de Duras, donc du sud-ouest, quand on monte en fédéral 3, on arbitre surtout dans le quart ouest de la France et sud-ouest, pardon, de la France. Donc, je suis allé, mes premiers matchs de Fédéral 3, je suis allé beaucoup arbitrer au Pays Basque. C'est ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui parce que
C'est
j'ai vécu
formateur.
des premiers matchs difficiles, ouais, des derbies, j'ai en tête des La Ressort AS Bayonne, voilà, des matchs costauds de Fédéral 3 où j'avais 21, 22 ans, j'arrivais tout juste. Et voilà, ça a été des matchs où j'ai pas forcément toujours été très bon, mais qui m'ont permis d'apprendre mes erreurs, de progresser très vite. Ouais, j'ai eu affaire à un rugby assez dur déjà, assez compétitif. Et voilà, je suis resté 3 ans en Fédéral 3 parce que la première année a été un peu dure. Et après, par contre, ce que je disais, tout cet apprentissage m'a forgé assez vite. Et je suis resté qu'un an en Fédéral 2, un an en Fédéral 1. Et je suis arrivé en Pro D2 à 26 ans. Hein.
Et c'était, je crois bien, un match à Aimé Giral en plus.
Mon premier match en Pro D2, ouais, c'était Perpignan, Mont-de-Marsan, à Aimé Giral. Ouais.
Formateur aussi, donc.
Pardon?
Formateur aussi, donc.
Oui, très très, un petit score de mémoire 14-9. Oui, forcément, Aimé Giral, toujours l'atmosphère actuelle qu'on y connaît. Donc oui, d'entrer dans le grand bain.
Et là, on se dit quoi là? On va en faire un métier quand on commence à rentrer dans le milieu professionnel de l'arbitrage?
Alors vraiment pas du tout, j'ai pas honte de le dire. Je me suis jamais dit quand j'ai commencé à arbitrer, et même quand j'ai franchi les étapes, je me suis jamais dit que l'arbitrage, ça deviendrait mon métier. Voilà, j'avais fait des études à côté, donc un bac général, une fac et j'avais une licence de responsable qualité. Je suis resté en poste, j'étais embauché en tant que responsable qualité en 2012, et j'ai juste arrêté l'année dernière parce que ça devenait trop compliqué. Mais voilà, je suis resté 13 ans en poste de responsable qualité en parallèle de ma carrière. Et voilà, l'arbitrage, c'était vraiment ma passion. Je le voyais pas comme un métier. Et voilà, le fait de franchir les étapes, d'arriver à arbitrer la touche au niveau international, en Champions Cup, etc., ça m'a demandé de faire des choix plus tard. Mais je l'ai toujours franchi les étapes par passion et par challenge. Mais je le voyais. Je pense, j'aurais jamais cru un jour que l'arbitrage soit mon métier. Et voilà, j'ai la chance aujourd'hui, oui, de vivre de ma passion parce que c'est devenu mon métier. Mais j'ai pas l'impression d'être au travail toutes les semaines ou tous les week-ends. C'est vraiment un métier passion. Et voilà, mais je ne m'attendais pas un jour à être professionnel.
Avec quand même des grands moments. Donc, je disais, premier match en Pro D2 2015, premier match en Top 14 en 2017, je crois bien, Montpellier au Oyonnax, si je ne
Mmh,
m'abuse.
c'est ça, c'est ça.
Et puis le Graal, ce que j'ai envie d'appeler le Graal, cette finale au centre, donc le 28 juin 2024, UBB Stade Toulousain au Vélodrome. C'est considéré comme un Graal, ça, pour un arbitre, justement?
Ah oui, clairement, quand on arrive à ce que je dis, on arrive en Pro D2, le but c'est d'aller en top 14. Et quand on est en top 14, on se dit si un jour je peux arbitrer une finale, ce sera le Graal. Voilà, on le sait très bien qu'il y a très peu d'élus. Plus on monte, plus l'entonnoir se resserre. Et celui qui a la chance d'arbitrer la finale de top 14, c'est notre bouclier de Brennus à nous. Il y en a un par an et c'est très très rare. Donc oui, j'ai eu la chance de rentrer dans ce cercle fermé des arbitres de finale. Et forcément, c'était notre mon Graal à moi. Et voilà, et après, j'ai eu la chance d'arbitrer des matchs bien au-dessus. Mais en France, c'est notre Graal. On a la chance d'avoir, et on le voit à l'heure actuelle encore avec les compétitions européennes, avec la domination des clubs français qu'on peut avoir comme Bordeaux, Toulouse, on a eu La Rochelle, etc. Voilà, on a un championnat qui est peut-être le meilleur au monde en termes de présence dans les stades, de niveau de jeu, d'intensité. Donc arriver à arbitrer une finale de top 14, c'est forcément un Graal et ça a été un moment unique. D'autant plus moi qui ai eu la chance d'en vivre plusieurs, même à la touche au Stade de France, cette finale au Vélodrome, c'était voilà, une ambiance particulière et voilà, donc c'était un très bon moment. Hein.
Alors là, ça fait, donc je dis, tu as 37 ans, ça fait 10 ans de carrière au plus haut niveau. Quelles sont les différences en 10 ans sur l'arbitrage? Alors bon, je ne parle même pas des règles parce qu'elles évoluent très, très régulièrement, mais est-ce qu'il y a une différence au niveau des comportements des entraîneurs? On en parle souvent des joueurs, la relation qu'on peut avoir avec eux.
Je dirais, notamment là, ces dernières années, ces 3 dernières années, il y a une évolution, mais je dirais plutôt positive. Je trouve qu'avant, il y a, sans être péjoratif, mais il y a quelques années, on était vraiment deux mondes séparés, entre guillemets. Il y avait le monde des entraîneurs, des joueurs et de l'arbitrage. Il y avait une cloison, il y avait très peu d'échanges et de passerelles entre les deux entités. Il y a beaucoup plus d'échanges à l'heure actuelle. Comme je le disais, on va énormément dans les clubs, on y est toutes les semaines. Il y a ben, Mathieu Reynal qui a fait un boulot considérable avec Romain Pouat et la cellule. Ouais, il y a énormément d'échanges entre les clubs et le monde de l'arbitrage. On passe notamment ben, tous les étés, la dernière semaine de juillet, on passe 2 3 jours ensemble. Cette année, ce sera encore à Lourdes-Aliens dans les Pyrénées, mais voilà, on passe 2 3 jours ensemble où on échange sur les orientations de notre sport et de notre jeu. Et voilà, on travaille tous vraiment bien dans la main. Voilà, l'objectif, c'est quand nous on rentre sur le terrain, ben, c'est de produire un spectacle. Entre guillemets, c'est pas que moi, Ludovic Kehr, je siffle 200 pénalités par match et voilà, tout le monde va très vite éteindre la télé ou quitter les stades. Voilà, donc on travaille main dans la main pour avoir les meilleures décisions possibles. On travaille main dans la main pour connaître et savoir les attentes des staffs et des joueurs. Voilà, le but, c'est que nous, on sait 80% des phases, on sait comment on veut les arbitrer en termes de règles. Il y a toujours 20% de zones grises qu'on appelle, entre guillemets, où c'est pas noir, pas blanc. Et voilà, où on a besoin des entraîneurs et des joueurs pour avoir leur ressenti sur ce qu'ils veulent en termes d'arbitrage sur ces phases-là. Donc, ouais, je trouve que ça a évolué, mais justement, de ce côté-là, très positivement, beaucoup plus d'échanges. Après, en termes de jeu, ben, par rapport à il y a 10 ans, moi personnellement, je trouve que ça va toujours plus vite. Donc, là, au niveau de la prise de décision, il faut être extrêmement rapide. Et voilà, c'est un championnat qui est impressionnant. On a multiplié la densité des joueurs. On a des joueurs qui sont toujours plus grands, toujours plus solides, qui vont plus vite. Et donc voilà, c'est un championnat qui est spectaculaire. Mais moi, c'est le meilleur championnat du monde à arbitrer. Et on prend énormément de plaisir tous les week-ends. Hein.
Du plaisir et de la pression, non, j'imagine aussi quand même.
Oui, bien sûr, de la pression, comme je disais il n'y a pas très longtemps, on a un devoir de résultat. Même si c'est un métier passion, c'est notre métier, on sait très bien qu'il y a les clubs de top 14, de Pro D2 maintenant de haut niveau, ce sont des entités, des entreprises. Donc nous, par notre rôle, on a un pouvoir de décision qui est énorme. Et voilà, donc on a un devoir de résultat, de travailler fort, pareil, avec la cellule qui a été mise en place. Par rapport à il y a quelques années, on travaille peut-être, je dirais, plus fort encore physiquement, techniquement. Voilà, on a des demandes, que ce soit physique et technique, très très élevées, mais ce qui est normal pour un championnat comme le Top 14 et la Pro D2. Donc la pression, oui, elle est inhérente, elle fait partie de notre métier. Après, je dirais qu'avec l'expérience, entre guillemets, avec 10 ans de Top 14, j'aborde les matchs peut-être plus sereinement et avec une pression qui est autre, mais bien sûr qu'on a toujours cette pression de réussir et de réaliser la meilleure performance possible.
Et de fait, donc, est-ce qu'on est toujours perméable aux critiques qui sont inévitables d'un côté ou de l'autre, vu les enjeux, hein, on le disait, mais
Oui,
est-ce qu'on est
ça
perméable
c'est.
à ces critiques-là qui sont
Ouais.
permanentes?
Ouais, c'est exactement, c'est pareil. Ça... Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai évolué sur ça au fil de ma carrière. Ça pouvait me toucher, notamment ce qui était dit dans la presse en début de carrière. Voilà, mais maintenant, ça me touche moins. Moi, ce qui m'importe, c'est l'avis de mes pairs, entre guillemets, de la cellule, des superviseurs tous les week-ends. Il peut y avoir des critiques qui sont non fondées, et donc là, ça me passe au-dessus. Quand les critiques sont fondées, on les accepte. Comme je l'ai dit, même à l'heure actuelle, comme les joueurs, il y a des matchs où je suis un peu moins bon que d'autres. On essaye de les minimiser et voilà. Mais je vous garantis que, comme les joueurs, si un week-end je suis pas bon, je passe une mauvaise semaine parce que je suis déçu de ma performance et je m'en veux. Donc oui, on travaille sur tout ça, mais la critique, on le sait, elle fait partie de notre métier. Et comme on dit après match, quand on arrive à faire 50% de contents, c'est qu'on a déjà réussi une part de notre travail. Si on fait 100% de moins de mécontents, là, c'est plus problématique. Mais voilà, on sait toujours qu'avec les partis pris, moi, je peux être pareil supporter de mon petit club de Duras. On peut toujours avoir un parti pris quand on regarde son club. Mais voilà, on sait que ça fait la critique, elle est. ben, partie prenante de notre métier et ça fait avancer. Et ce que je dis souvent à mon manager quand on échange, etc., quand on reconnaît déjà ses erreurs, c'est quasiment 80% du chemin qui est fait. Voilà, je fais des erreurs tous les week-ends. L'important, c'est de travailler sur ces erreurs et de ne pas les reproduire tous les week-ends et enfin, le week-end surtout suivant. On a la chance d'arbitrer régulièrement et donc le week-end d'après, on peut remettre en pratique ce qui n'a pas marché. Donc voilà, et plus ça va, plus on minimise ses erreurs. Et voilà, faut savoir que je pense qu'à l'heure actuelle, si on prend les stats sur un mode de top 14, on a 90-92% de bonnes décisions. Donc on tend, voilà, on n'arrivera jamais à 100%. Le rugby, c'est un sport qui est complexe. Il y a 200 phases de jeu au sol par match avec autant de possibilités de siffler. Et on va en siffler 10 sur 200. Donc voilà, l'important, c'est d'être bon dans ce tri, dans cette cohérence. Et voilà, ça, c'est quelque chose que les managers acceptent relativement bien. C'est-à-dire que eux, ce qui leur importe, c'est la cohérence et la gestion globale d'une rencontre, plus que la précision des fois plutôt scolaire.
Et c'est bien de nous dire tout ça. Alors, on voit bien quand même que l'arbitrage, hein, au plus haut niveau est très structuré, très soutenu, épaulé par la vidéo, etc. Mais bon, sur rugby amateur, évidemment, nous, on ne voit pas ça au bord des terrains de régional ou de fédéral. Et on a posé des questions à des arbitres, justement. Qui savait qu'on allait t'en poser également. Donc, on a une question de Damien, qui est un arbitre d'Occitanie, qui se reconnaîtra, et qui lui disait justement nous demander quel conseil un arbitre top 14 peut donner aux arbitres amateurs qui sont seuls le dimanche à 15h.
Moi, je suis passé par là et donc je connais la difficulté
Oui.
d'arbitrer seul. Comme je disais, l'important c'est d'être cohérent sur une rencontre, de pas chercher à inventer les choses. Quand on n'a pas vu, on n'a pas vu. Ce que je le dis encore dernièrement lors d'une réunion, il faut de l'indulgence envers ces arbitres qui sont seuls le week-end. On a besoin d'arbitres. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois dans mon département du Lot-et-Garonne que multitude de rencontres de séries ou de réserves ne sont pas arbitrées parce qu'on manque d'arbitres. Mais c'est vrai que, comme je le dis, que ce soit à 16 ans ou maintenant, prendre le sifflet et aller au milieu d'un terrain, il faut le vouloir. Et d'autant plus quand on est seul comme ça en série. Donc, je pense qu'il faut, voilà ce que je disais tout à l'heure, pareil, accepter l'erreur, accepter qu'on va se tromper, ne pas avoir peur de reconnaître qu'on s'est trompé, mais essayer de, sur une rencontre, de la manager du mieux possible. Tout en étant, je pense, à leur niveau plus proche de la règle. Voilà, la règle, c'est notre meilleur ami, comme on dit entre guillemets. Donc, ne pas trop s'éloigner de la règle, mais garder toujours dans cette notion en tête de cohérence et d'équité. Donc, voilà, on peut ne pas siffler une faute dans un sens, mais il est important de ne pas la siffler dans l'autre. Et ou la siffler, et important de la siffler dans l'autre, vice-versa. Mais je crois que le maître mot, c'est la cohérence. Et voilà, et c'est comme je dirais, à leur niveau, je pense, en série, pour y être passé, là, des fois, ce n'est pas la meilleure décision technique qui va amener consensus ou qui va me permettre d'amener un match à son terme. C'est la meilleure décision de bon sens, entre guillemets. Donc, je crois qu'en série territoriale et même jusqu'à un niveau fédéral, la décision de bon sens, elle doit primer sur la décision technique. Hein.
On a vu récemment Thomas Charabas faire la touche d'une finale de terroir. On a vu Kevin Briley qui était également à la touche d'un match de Fédéral 2. Adrien Marbeau également qui était au centre d'un match de Régional 1 dans les Landes. On avait vu nous également Flavien Hourquet arbitrer une finale de Championnat de France de Régional 2. Ça dit quoi ça en fait des arbitres pros qui reviennent quelque part aux sources, hein. C'est quelque chose qui évoque quoi là?
Ben ça dit que c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on réalise des. Enfin, on est sur des métiers passion. Et voilà, avant tout, notre passion, c'est l'arbitrage, c'est le rugby, le monde du rugby. Et voilà, qu'on arbitre en top 14, en fédéral 2, en série de régionales, en réserve, enfin peu importe. Voilà, avant tout, on aime arbitrer. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai eu fait moi aussi l'année dernière, il y a 2 ans, à revenir arbitrer en série territoriale pour dépanner ici en Lot-et-Garonne. Et ça montre, oui, voilà, qu'avant tout, on est des amoureux de ce sport-là et des passionnés. Et voilà, un match de deuxième, de Régional 2, pardon, Régional 1 ou de top 14, ça reste un match à 15 contre 15. Et voilà, ça nous permet, nous, de continuer à travailler et d'évoluer dans notre carrière aussi. Donc voilà, ça montre qu'avant tout, on est des passionnés. Et voilà, c'est aussi important de donner au rugby amateur ce qu'il nous a donné. Parce que, comme je le disais il n'y a pas très longtemps, Si je prends mon cas particulier, c'est 20 ans d'arbitrage, mais ça fait 10 ans en top 14 et j'en ai passé ben, mathématiquement autant dans le secteur amateur. Donc, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à toute cette progression dans le secteur amateur. Et donc, c'est important de aussi de donner à ce rugby-là qui est le socle de notre rugby, du rugby français.
Et c'est très bien. On l'évoquait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une petite pénurie quand même d'arbitres. Est-ce que c'est toujours une vocation? Et si oui, en tout cas, quel conseil tu pourrais donner à un jeune ado de 15 ans ou plus qui aimerait se lancer dans l'arbitrage? Quel conseil et quelles qualités sont requises?
Ouais, je pense que oui, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce que tu dis, c'est même devenu oui, une vocation. Moi, quand je le disais, j'ai commencé à 16 ans, j'y suis venu par blessure. Et quand moi j'ai commencé, il y a une vingtaine d'années, les personnes qui venaient à l'arbitrage, c'était soit sur blessure comme moi, ou soit sur suspension. Donc, pour réduire sa peine, entre guillemets, on allait arbitrer parce qu'on voulait réduire sa suspension. Donc, on avait ce public-là, entre guillemets, blessure ou suspension. Et on avait très peu de jeunes qui venaient d'eux-mêmes à l'arbitrage. Maintenant, fait moi pour. Réaliser des opérations comme rencontre en terrain favorable il n'y a pas si longtemps dans le Gers, on a énormément pardon, de jeunes qui se tournent vers l'arbitrage d'eux-mêmes sans être blessés ou sans être suspendus. Tout ce côté-là aussi a été structuré avec des diplômes universitaires comme le PERC de Clermont qui ont été mis en place. Donc c'est beaucoup mieux structuré que quand moi j'ai démarré. Et donc maintenant on a un public beaucoup plus jeune qui se tourne vers l'arbitrage. Ça, on peut aussi remercier conjointement la FFR et la LNR. On a des moyens colossaux qui ont été mis en œuvre par la FFR et la LNR pour développer l'arbitrage de haut niveau. Donc maintenant, on a beaucoup plus de moyens, que ce soit financiers, humains, voilà, techniques. Donc on est mis dans un confort et ce qui nous amène derrière, je disais, un devoir de résultat, mais les choses sont beaucoup plus faciles pour nous aujourd'hui. Donc maintenant, je trouve que l'image de l'arbitre s'est démocratisée. Avant, on était un peu vulgairement les pestiférés, enfin mis de côté. Maintenant, l'image de l'arbitre est reconnue et donc voilà, on le voit même nous à la sortie des stades. L'image de l'arbitre a changé. On n'est plus vu comme les empêcheurs de tourner en rond, mais plus comme des régulateurs de jeu et voilà, une personne qui a une part importante dans la réalisation, ce que je disais un peu tout à l'heure entre guillemets du spectacle du jour. Mais voilà, donc je trouve que ça s'est vachement démocratisé, pardon, on a une image qui est beaucoup plus positive. Et donc, par rapport à ta question globale, ce que je disais, c'est moi, les jeunes qui veulent se tourner vers l'arbitrage, je leur dirais que oui, c'est une véritable école de la vie. C'est, comme je dis toujours, un métier passion. C'est fait de, avant tout, ce que je dis, on réalise notre passion, on rencontre une multitude de gens de divers horizons. Et voilà, moi, ce que j'aime dans l'arbitrage, c'est ça, c'est que. Tous les week-ends, on joue à l'extérieur, entre guillemets, on part sur des terrains divers, mais on rencontre énormément de monde, c'est fait de belles rencontres. Et voilà, c'est, je le dis, une école de la vie, ça permet de forger, de former un homme. Et voilà, moi, ça, je regrette en rien de m'être tourné vers ce secteur-là, parce que aujourd'hui, c'est ce qui me permet de m'épanouir dans la vie de tous les jours. Hein.
Eh bien, ce sont de très belles paroles, de très bons encouragements, et sur ces belles paroles-là que l'on va te laisser. Te remercie encore une fois du temps que tu nous as accordé pour Rugby Amateur. C'est toujours intéressant d'avoir un écho comme ça qui vient d'en haut, mais de quelqu'un qui est passé aussi par ces étapes-là. Juste un dernier mot. On a souvent l'interview décalée sur Rugby Amateur et que l'on termine par la définition que la personne interrogée donne du rugby, donc ta définition du rugby pour toi, qui a été joueur et évidemment arbitre, c'est quoi?
Ma définition de rugby, alors ouais, ça va être un peu bateau, c'est ce qu'on entend toujours, mais c'est un ballon de rugby et des copains autour. Donc voilà, je trouve que c'est fait d'une bande de copains et c'est notamment pour ça que moi je rejoins en tant qu'entraîneur l'équipe de Miramar Régional 2 parce que j'ai trouvé par la connaissance de Bruno, voilà un groupe humainement qui est très fort et voilà beaucoup de jeunes. Et voilà, outre notre passion, voilà, c'est des moments humains forts à vivre ensemble. Donc voilà, c'est cette bande de copains qui se retrouvent tous les week-ends, toutes les semaines, et voilà, qui va tisser des liens forts. Et donc, on espère qu'on ira le plus loin possible. Mais voilà, c'est fait de retrouvailles, d'amitié, de convivialité, de devoir de résultats aussi, parce qu'avant tout, on joue pour gagner. Mais voilà, et fait de ce que j'ai de respect, que ce soit de respect entre nous et notamment envers l'arbitre, comme je le disais il n'y a pas très longtemps.
Écoute, voilà, c'est le message est passé et encore merci pour pour cet échange-là. On te souhaite une belle saison prochaine dans le rugby amateur et une belle fin de saison nationale et internationale, évidemment. Ludovic,
Merci
encore, merci
beaucoup.
beaucoup. À très bientôt.
Merci à vous. Au revoir.